Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jeg, je t'ai rencontré il y a un an sur un rainbow. On a échangé quelques minutes avant que tu partes, que tu t'en ailles, et je te retrouve un an plus tard sur un autre festival, un peu rainbow aussi, ici au Moulin de l'Abondance. Et donc Jeg, je me souviens, tu me racontais il y a un an que tu étais nomade, ou en tout cas tu expérimentais le nomadisme dans ta vie, et que tu allais un petit peu là où tu te sentais appelé, et que tu proposais également une conférence. Donc on va prendre le temps de te rencontrer, cette émission dure une bonne demi-heure. Donc on a le temps, vraiment le temps c'est précieux aujourd'hui, donc vivons cette rencontre. Et donc Jeg, je vais peut-être revenir un peu dans le passé, et toi ton parcours, et qu'est-ce qui fait, à quel moment t'as senti que le mouvement était quelque chose d'important pour toi, parce qu'en tout cas j'ai l'impression que tu es ça, que tu incarnes le mouvement.
Alors bonjour et bonsoir à tous les auditeurs. Alors en fait ça s'est pas fait d'un coup, évidemment, ça a été un petit peu accidentel, je dirais, parce que J'ai changé de vie en 2020, j'ai arrêté de travailler, j'ai vendu mon appartement, j'avais une vie classique à l'époque, travail, appartement, voilà, et j'ai fait construire une tiny house. Donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite maison en bois qu'on peut déplacer, et cette maison a brûlé en fait. Je suis parti rejoindre un petit collectif dans le Var, et il y a eu des gros incendies en 2021. Et on était en plein milieu, dans le massif des Morts. Et donc, la tiny, elle a brûlé. Ce qui fait que je me suis retrouvé à la rue, en fait. Et j'avais acheté juste avant un véhicule plus grand, un monospace, dans l'idée de l'aménager un petit peu comme un van, pour faire des déplacements, pour aller découvrir un petit peu la France, et aller d'un festival à l'autre, d'un rainbow à l'autre, et de découvrir d'autres communautés. Donc j'ai fait exactement ce que j'avais prévu, j'ai fait mon petit aménagement.
Alors attends, avant de parler de l'aménagement, du van, l'épisode de la tiny, t'as quand même dit quelque chose d'hyper intéressant. C'est que tu avais une vie classique avec un appartement et t'as fait le choix de tourner cette page. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que finalement beaucoup de gens se retrouvent un petit peu dans cette vie peut-être classique, et peut-être ont aussi envie de tourner une page, mais c'est pas forcément facile de se libérer notamment de nos peurs ou de tout ce qu'on a réussi à construire. Donc parle-moi de cette étape de ta vie qui est quand même pas rien, de tourner cette page d'une vie plus ou moins rythmée par un quotidien qui peut être rassurant.
Oui, complètement. En fait, ça s'est fait progressivement. J'avais de plus en plus, j'ai pris conscience de certains aspects que j'avais envie de changer dans ma vie. Il y avait l'aspect écologique, on nous propose des contenants en plastique, moi je supportais plus de voir cette poubelle de recyclage débordée, donc j'ai déjà commencé pas mal de choses au niveau de ma consommation. Et par rapport à mon travail, c'est un ras-le-bol progressif, parce que j'étais infirmier et je n'étais plus en adéquation avec ce qu'on proposait dans le monde médical moderne. Et au niveau du logement, en fait, j'habitais dans une ville, j'habitais à Montpellier, et j'avais le projet classique que beaucoup de gens ont. On commence par acheter un appartement, et puis ensuite on en ville, et puis on se dit, allez, je vais acheter une maison un peu plus loin pour le même prix. Et puis j'ai rencontré une fille à l'anniversaire d'une amie qui m'a parlé des tiny houses. Et là, ça a fait une espèce de déclic. Je me suis dit, mais en fait, c'est sympa parce que je peux garder l'idée de quitter la ville, d'aller habiter où j'ai envie pour le coup. Et si j'ai envie de bouger, j'ai pas besoin de revendre ma maison, ou mon appartement, ce qui est jamais gagné d'avance. Et je trimballe ma maison avec moi, donc comme les escargots, donc c'est génial. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire construire une tiny et d'opter pour ce choix de vie.
J'aime bien qu'on développe quand même la Tiny, parce que je pense que t'as, ou je sais pas trop quelle est la réglementation aujourd'hui, donc c'est effectivement une maison montée sur une remorque qui correspond à un poids précis, à une législation précise aussi en termes de dimension et de taille. Est-ce qu'on peut la poser partout, sa Tiny? Comment ça se passe? Parce qu'une fois qu'on a sa Tiny, l'idée c'est aussi de trouver un terrain, avec peut-être de l'eau ou de l'électricité, et il faut aussi que la municipalité soit d'accord. Enfin, comment ça se passe concrètement quand on se lance dans l'aventure de la Tiny?
Mais voilà une excellente question. Alors en fait, oui, il y a toute une législation qui est extrêmement compliquée, qui ne s'applique pas de la même façon selon le type de terrain et selon si on y vit à l'année ou pas. Alors là, je ne vais pas faire un cours sur la législation parce que je la connais même pas moi-même par cœur. Mais et effectivement, c'est soumis à autorisation de la mairie et de l'urbanisme. Voilà. Alors moi, j'ai opté pour un autre choix, c'est-à-dire que j'ai opté pour pas demander d'autorisation. Et le premier terrain où je l'ai posé, c'était chez une dame qui avait un terrain et qui a décidé de mettre deux tiny sur son terrain sans demander quoi que ce soit, parce qu'elle était convaincue par cet habitat très écologique. Et le deuxième terrain où j'ai été, c'est des gens pareils qui m'ont accueilli sans demander d'autorisation. Parce que, en fait, là on arrive gentiment un petit peu sur un autre aspect de mes motivations dans la vie et de mon regard sur le monde. C'est qu'on a une législation qui nous pousse à faire des choses incohérentes, voire même pire, à détruire la nature. Parce que quand on vit dans une tiny house ou dans un habitat léger, c'est très écologique. Alors c'est pas forcément que écologique, parce qu'une tiny a aussi un peu de métal, voilà. Mais comparé à une maison en béton, c'est beaucoup beaucoup plus écologique. Et la plupart des gens qui ont une tiny mettent les eaux usées directement dans la terre ou via une phytoépuration, c'est-à-dire des graviers, du sable et des plantes. Ce qui est très écologique, ce qui est reconnu comme une épuration écologique.
Et même de manière commune, quand on réduit sa surface d'habitat, on réduit de toute façon son empreinte sur l'environnement aussi, parce que moins de matériaux, souvent moins de consommation, que ce soit d'eau, d'électricité ou de chauffage, parce qu'on vit sur un petit espace. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'un appartement, quand on vit seul en 80 mètres carrés, ça a un coût énergétique, mais aussi un coût en termes de construction. Et là, la tiny, c'est quoi? C'est du 16 mètres carrés peut-être?
Alors effectivement, quand on est dans ce genre d'habitat, on consomme moins, ça c'est indéniable. C'est 12 mètres carrés au sol, et moi j'avais 20 mètres carrés en tout, parce que j'avais deux mezzanines. Et surtout, j'utilisais des produits naturels. Et il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers des produits naturels parce que l'industrie nous propose des tas de produits chimiques dont on n'a pas du tout besoin. Tu prends du vinaigre, du bicarbonate, la plupart du temps ça suffit. Tu peux fabriquer tes savons toi-même aussi, les dentifrices, la lessive, enfin plein les produits, même pour les femmes, le maquillage, tout ça. Et donc il y a un impact global qui est très faible. Et moi, j'achète beaucoup du seconde main aussi. Donc voilà, ça s'inscrit dans un bilan, alors on peut appeler ça un bilan carbone global. Et on ne tient souvent pas compte de l'énergie grise qui est l'énergie impliquée dans la construction d'un objet, quel qu'il soit, même une tête d'épingle. Et quand on prend toute la vie de cet objet, on se rend compte que, par exemple, de changer de voiture, comme on nous fait faire tous les X temps pour acheter des nouvelles plus performantes, qu'est-ce qu'on fait de l'ancienne ? On la met dans un grand trou, on en fait une petite cube de métal, puis on l'envoie à l'étranger. C'est un peu ce qui se passe, hein, voilà. Et ça, c'est pas écologique du tout. Mais par contre, c'est légal, voilà. Et donc, moi, je consens pas à cette légalité qui me pousse à faire des choses incohérentes. Donc, en fait, si j'ai pas le droit, je prends le gauche, voilà.
Ouais, c'est ça, c'est pas se contraindre ou se soumettre aux injonctions d'un système qui aujourd'hui est plutôt malade. Il y avait cette phrase de Krishnamurti qui disait s'adapter à un système malade n'est pas forcément un signe de bonne santé mentale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on observe nos politiques font des choix qui, des fois, manquent de cohérence, en tout cas pour nous les citoyens, ou en tout cas quand on essaie de mettre en avant ce chemin de la conscience, notamment de la conscience écologique.
Exactement, c'est des injonctions paradoxales. On nous pousse à faire des choses et après on nous les reproche. Et en fait, ça s'inscrit dans un catalogue de stratégies de manipulation que Noam Chomsky a très bien énuméré, les 10 stratégies de manipulation des masses. Et globalement, on est dans un système qui est régi par la peur, la confusion, le choc, l'émotionnel. Et ça fonctionne bien. Et quand on a eu le Corona Circus, on a eu le quintet gagnant. Ça a très bien fonctionné. Il n'y a qu'à voir la docilité avec laquelle une majorité de gens se sont soumis. Pour X raisons, hein. Je ne juge pas. Mais en fait, là, on a un excellent exemple de consentement qui nous mène à chaque fois à une étape suivante. Et qui va provoquer des mécontentements, mais les mécontentements actuels sont dus au consentement passé, et nos consentements actuels donneront les mécontentements de demain.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Bah toi, Jack, comment t'as fait pour te libérer de ce système? Parce que donc, tu étais infirmier et t'as tourné la page récemment, finalement. Donc, ouais. Il y a eu effectivement un long cheminement. Mais est-ce qu'il y a eu, je sais pas, un point de rupture? Comment est-ce que tu as acté ce changement de vie? Donc, tu parlais de ta tiny house. C'est vraiment ça. C'est la rencontre avec cet habitat nomade, mobile, où tu t'es dit, OK, ça y est, maintenant j'y vais, je switch et je passe à autre chose.
Alors, en fait, là, il y a deux questions. Il y a le travail et le logement. Ça s'est fait conjointement, mais c'est deux raisonnements un petit peu à la fois parallèles, mais différents. Le monde médical moderne, comme on dit, est bourré d'incohérences et est orienté pour le bien-être des laboratoires pharmaceutiques. Et là, je propose aux auditeurs une lecture très intéressante, c'est La mafia médicale de Guylaine Langteau. C'est un médecin canadien, une femme, qui faisait son métier sans se poser de questions. Elle soignait des gens, l'argent rentrait, voilà. Et un jour, elle a, je ne sais plus exactement comment, découvert quelque chose d'un peu étrange, pas très cohérent par rapport, je crois que c'était à des vaccins. Et puis elle a tiré le fil de la pelote et elle s'est rendue compte que, ah bah oui, il y a ça aussi, il y a ça. Et elle a remonté, elle s'est rendue compte, en fait, tout était orienté pour Big Pharma. Donc elle a quitté son métier, elle a écrit des livres, je crois qu'elle faisait des conférences aussi. Et puis alors elle a carrément été jusqu'à un certain degré de souveraineté, comme on appelle, de souveraineté individuelle. Elle a refusé de payer ses impôts, elle a fait un peu de prison. Et maintenant, je crois qu'elle n'a même plus de papier, elle est obligée de rester au Canada, mais elle joue une carte vraiment d'être humain et non pas de citoyen. Voilà. Et puis il y a aussi Claire Sévérac qui avait écrit La guerre secrète contre les peuples, où là on se rend vraiment compte de beaucoup de manipulations. Puis il y a un livre aussi qui s'appelle La fin du mal de Jérémy Locke, L-O-C-K-E, qui lui aussi, c'est un livre très, très vite lu, hein, très facile, mais alors il y a tout. Hein, ça résume vraiment pour les gens qui douteraient éventuellement que oui, mais quand même, alors on entend beaucoup ce mot de théorie du complot, conspirationniste. Mais en fait, moi, ça m'amuse ce mot parce que ça veut rien dire. C'est juste pour museler les gens. Mais tout est sous nos yeux. Il suffit juste de les ouvrir. Et de plus en plus, il y a des révélations. Donc, pour dire que cette incohérence du monde médical, parce que je n'ai pas oublié la question, elle m'a sauté aux yeux. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais plus être... tu parlais d'alignement tout à l'heure, entre les paroles, les pensées, les actions. Bah, moi, je ne pouvais plus agir en sachant que ce que je faisais n'était pas forcément des bonnes choses, de donner des médicaments à des gens qui ont envie de mourir, et puis après à qui on va reprocher que la dépendance coûte cher, et qu'on va se gargariser, que nos espérances de vie augmentent, mais bah non, parce que la qualité de vie ne suit pas. Et donc, j'avais envisagé de me réorienter, comme on dit, dans des soins plus naturels, et de terminer mon métier d'infirmier en décrescendo. Et puis est arrivé le Corona Circus, c'est comme ça que je l'appelle. Et là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'incohérences, un manque de matériel, on n'avait pas de blouse jetable, on avait très peu de masques. Et moi, j'ai pas cru à cette pandémie. Dès le départ, quand il y avait cette histoire de pangolins et de chauves-souris en Chine, sachant qu'on a un certain Bill Gates qui est derrière des plans de vaccination et derrière l'OMS, qui disait on est trop nombreux sur Terre et on pollue trop, Et il montre une équation, ça les gens peuvent retrouver sur YouTube, c'est tout à fait officiel. Il y a une équation où on peut modifier un des paramètres pour diminuer l'impact sur le climat, c'est de réduire la population. Il y en a plein d'autres avant lui qui ont émis cette hypothèse. Alors lui, il a une recette en fait. Il dit comment est-ce qu'on peut faire avec des systèmes de santé performants et des nouveaux vaccins. Avec ça, dans un coin de ma tête, dans ma petite maybe box, j'entends cette pseudo début de pandémie. Je me suis dit, ah bah tiens, à mon avis, ça va servir à Bill Gates là, pour que toute la population soit vaccinée. Puis en fait, bah, c'est un petit peu... on n'a pas été jusqu'au bout du plan, mais c'était un peu l'idée quand même. Et donc là, ça a rajouté une couche à mon désaccord. Et puis, il y a eu une situation finale qui était la touche finale, c'est que quand on est dans les soins, ça arrive souvent qu'on ait une situation qui soit plus difficile. Il y en a, c'est la fin de vie, par exemple. Et moi, c'était la violence chez les patients déments et agressifs. Et on avait une petite mamie qui devenait de plus en plus agressive pendant les soins. Et puis un jour, je ne l'ai pas vu venir, elle m'a foutu une baffe. Et là, j'ai bugué, telle la cuillère dans le pudding anglais. Et j'ai compris qu'il se passait un truc. Et que... Ouais, je pense que... Là, je me suis dit, je suis pas loin du burn-out. Et effectivement, j'ai arrêté, en fait. En plus, j'avais une collègue qui me soutenait pas. Normalement, on était supposé être soudés. Si l'un d'entre nous avait un problème chez un patient, on disait, bah écoutez, non... On ne peut plus aller chez vous, voilà. Donc, on trouvait un autre cabinet, et voilà. Et là, non, elle me dit, oh, il faut que tu prennes sur toi, sinon tu changes de métier. Elle a enrobé ça, hein, hein, mais moi, le décodeur, je l'avais branché, ça voulait dire ça. Je dis, bah, écoute, pas de souci, au revoir. Et j'ai arrêté. Et j'avais prévu, en même temps, c'est un hasard de calendrier, comme on dit, j'avais vendu mon appartement et j'attendais la livraison de ma tiny house. Et ça s'est fait en même temps. Il y a une petite période où j'étais à la rue parce que j'avais vendu l'appart et j'avais pas encore la tiny. Donc j'étais hébergé par une amie dans une petite caravane. Mais officiellement, je suis sorti de chez le notaire, j'étais à la rue. Voilà.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage. Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Jeg, donc là tu es dans mon camion, on parlait de ton switch, hein, de ta transition de vie, donc tu passes d'infirmier à la tiny, tu découvres les rainbows, donc tu m'expliques aussi, je crois que la tiny brûle, et donc là tu fais le choix après du nomadisme.
Oui, en fait, c'est ça. C'est quand, dans ce petit collectif où on était dans le massif des morts, il y a eu des grands incendies en 2021. Et c'est là que je suis parti dans le nomadisme. Et puis tout à l'heure, tu me demandais aussi, par rapport aux choix qu'on peut faire quand on veut sortir du système, notamment financier. Parce que les auditeurs doivent se demander, bah, comment on fait quand on choisit une autre alternative. Alors, il y a plusieurs alternatives. Il y a bon, le truc le plus classique, c'est le RSA. Moi, je n'avais pas droit au chômage parce que j'étais infirmier libéral. Donc, j'aurais pu peut-être demander le RSA, mais je ne l'ai pas fait parce que je n'en ai pas besoin. J'ai quelques économies suite à la vente de mon appartement. Et le fait aussi que ma maison m'ait été remboursée par l'assurance et puis je n'en ai pas refait construire une autre. Donc, en fait, je vis sur mes économies. Et surtout, tu parlais de peur tout à l'heure, et ben j'ai compris aussi une chose, c'est que dans la vie, il n'y a que deux possibilités, c'est peur ou amour, et que ce qui nous retient, c'est nos peurs et croyances limitantes. Et qu'à un moment donné, et ben, j'ai essayé de déjà les identifier, parce que le premier travail, c'est de les identifier. On ne se rend pas toujours compte derrière des émotions pas cool qu'il y a au moins une peur, et souvent c'est en poupée russe, il y en a plusieurs, et de les remplacer par de l'amour. Donc en fait, quand on dit ça comme ça, ça peut faire un peu bisounours, mais... Ça veut dire rien d'autre que comment je vais faire pour transmuter cette peur en autre chose. Ça implique beaucoup de confiance en soi, d'estime de soi aussi, c'est très lié, du respect envers soi-même, et donc ça s'applique aussi aux autres. Et en fait, à un moment donné, on fait confiance à l'univers et à l'abondance.
Mais c'est intéressant ce que tu dis, peur et amour, parce que souvent on entend cette phrase, hein, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, c'est vraiment ça, c'est les peurs qui nous limitent et qui nous empêchent d'avancer.
Ouais, mais la haine est une peur. En fait, c'est le corollaire d'une peur. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais il n'y a pas de gens méchants, il y a que des gens qui souffrent. Et donc, revenir au nomadisme, donc c'est comme ça que je suis arrivé au nomadisme, parce que me retrouvant sans maison, j'ai vécu dans ma quechua pendant quelques semaines, quelques mois. Bon, c'était l'été, donc c'était voilà, ça allait. Encore que avant d'avoir ma petite tente, j'avais acheté une tente un peu genre festival au Champ des Possibles. J'ai vécu pendant deux bons mois dans ma quechua, même en hiver. Et après ça, j'ai fait mes travaux dans ma voiture pour l'aménager. Et je me suis dit, j'ai pas du tout envie de retourner dans une vie classique, à louer un appartement. Parce que ça impliquait de repartir à travailler. Moi, j'avais plus envie d'être infirmier. Donc, ok, mais alors je vais faire quoi? J'avais pas envie de ça. Donc, j'ai expérimenté la vie de nomade. Et puis, je me suis dit, on verra. Le premier hiver, je suis parti aux Canaries avec l'idée d'aller au Rainbow Mondial au Mexique, mais en bateau stop, c'est-à-dire en faisant de l'autostop pour choper un voilier. Et je suis arrivé par ce biais-là aux Canaries, et là-bas, j'ai vécu 6 mois dans un petit collectif qu'on appelait le Rainbow Camp. Donc c'était pareil, c'était avec des valeurs Rainbow, pas de drogue, pas d'alcool. Et avec une organisation aussi organique, enfin voilà, c'était vraiment très Rainbow. Et c'est que au bout de 6 mois, je suis rentré en France, où là j'ai retrouvé ma petite voiture qui était aménagée, et j'ai sillonné la France. Donc là, c'était l'été, c'était le mois de mai, en plus il y avait la canicule. Et puis je me suis dit, on verra tant que je tiens, avec toujours la possibilité. Plein de gens m'ont proposé le gîte, donc je savais que j'étais pas à la rue pour l'hiver. Et puis j'ai passé septembre, puis octobre, puis novembre. Et puis après, j'ai effectivement eu l'occasion d'être un petit peu plus en intérieur, parce que la vie m'a amené dans ces circonstances. Et puis après, au mois de janvier, je suis reparti sur les routes. Donc là, j'étais en Haute-Savoie. Donc c'est sûr que je ne suis pas resté en Haute-Savoie. J'ai foncé dans le sud de la France, dans le Var. Je suis retourné dans le Var. Et j'ai regardé la météo, en fait, où il y avait le plus de soleil et puis les meilleures températures. Et je me suis dit, tant que je tiens en France, je reste, sinon je pars en Espagne, dans le sud de l'Espagne. Et puis, février, mars, avril. Et c'est après, finalement, c'est là qu'on s'est rencontrés au mois de juillet. J'ai acheté un van. Donc là, en fait, en théorie, je ne suis plus dans ma voiture aménagée, mais dans un van. Mais je n'ai pas trop pu l'utiliser parce que, qu'en fait, il est chez le garagiste. Et je ne peux pas vraiment pas m'en servir pour l'instant. C'est très frustrant, donc je travaille beaucoup la patience et le détachement et l'impermanence des choses. Mais là, il est en train d'être réparé, donc normalement, dans une semaine, je le retrouve et je vais boucler la boucle un peu là où tu m'as laissé au Rainbow il y a à peu près une année, et je vais reprendre ma vie de nomade. Voilà. Et aussi pour présenter ma fameuse conférence dont tu parlais tout à l'heure.
Voilà, c'est ça, on va terminer là-dessus, parce qu'effectivement, il y a un an, quand on parlait ensemble au Rainbow, tu me disais que tu offrais ou tu proposais une conférence. Donc, quelle est-elle? Quel est le sujet? Et de quoi parles-tu?
Alors, elle s'intitule « La méthode simple pour créer un autre monde », qui se faisait jusqu'à maintenant sous forme de conférence, mais qui va de plus en plus être sous format atelier, beaucoup plus interactive. Et elle est issue elle-même de ma chaîne YouTube « Les petits pas sages » en 4 mots. Qui est une invitation à la réflexion, au bon sens, à mettre de la conscience sur les actions qu'on fait et leurs conséquences. Et qui, moi je m'adresse aux gens qui seraient éventuellement mécontents du monde dans lequel ils vivent, qui seraient frustrés, qui se sentiraient peut-être, comment on appelle, impuissants. Je suis un peu ironique en disant ça, parce qu'en fait on est très nombreux. Et qui voudraient autre chose dans leur vie, mais qui se disent, mais comment faire? En fait, ils sont très envieux quand, par exemple, moi, je parle de ma vie et des changements. J'entends beaucoup de gens me dire, ah ouais, c'est super et tout. Et j'aimerais bien faire la même chose. Et je leur dis, mais pourquoi tu le fais pas? Eh, mais je peux pas. J'ai le travail, j'ai les factures, l'appartement. Après, c'est aussi des fois des histoires de famille. Et juste après, souvent, ils me disent, mais ah oui, ils me disent, j'ai pas le choix. Et ils se reprennent souvent. Ah ouais, bon, okay, j'aurais le choix, mais c'est juste que je perdrais mon confort. Donc ça, c'est de l'honnêteté intellectuelle, j'appelle. Parce qu'en fait, on est au cœur du problème. C'est qu'il y a toutes ces peurs et ces croyances limitantes qui nous font croire qu'en fait, on est obligé de subir ce système. Depuis tout petit, on nous dit, oui, mais tu dois aller à l'école. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et bah, voilà, moi, je pense qu'il y a des tas d'autres possibilités. Et ça s'articule sur trois axes. Je pense que si on veut s'octroyer les moyens de vivre une autre vie, c'est important de comprendre le monde. L'autre face de la pièce, le dessous des cartes, on appelle ça comme on veut, mais qu'en fait, de comprendre qu'il y a autre chose que les informations officielles qu'on nous donne, qu'après, donc aussi important de comprendre cette notion de consentement, parce que ce système a besoin de notre consentement, et quand on décortique, on se rend compte qu'on le donne, alors soit parce qu'on ignore les informations qui sont à notre disposition, on se voile la face, ou parce que certaines informations sont cachées. Et c'est des consentements qui sont souvent inconscients aussi, parce que bah, dans des schémas, dans des croyances, voilà. Après, l'autre clé, c'est de se comprendre soi-même. C'est de comprendre aussi que n'importe quel changement dans le monde va commencer par nous. Ça, c'est Gandhi qui le disait, soit le changement que tu veux voir dans ce monde. Et ça implique aussi de s'estimer, de comprendre comment on fonctionne aussi avec les autres, comment fonctionnent les autres, d'être beaucoup plus, non pas dans la critique, le jugement, la compétition, mais plutôt dans l'amour, la bienveillance, l'amour inconditionnel. Et Malraux disait, le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. Ben, en fait, c'est ça, parce que c'est un mot. Tout à l'heure, je parlais de la connotation qu'ont certains mots. Spiritualité, c'est un mot qui fait peur encore. C'est pour ça que dans ma chaîne, j'en parle très peu, je le nomme très peu. Mais par contre, je parle beaucoup des ingrédients qui composent la spiritualité, qui ne sont rien d'autre que la bienveillance, l'amour inconditionnel, la tolérance et l'acceptation des autres tels qu'ils sont, tant qu'ils sont dans le respect. Et aussi la notion de légitimité. Tout à l'heure, tu parlais de pirates, tout ça. Moi, bon, voilà, je vois plus les choses sous un autre angle, c'est-à-dire que si les lois m'obligent à me mettre en danger, parce qu'on en est là, hein, eh bien, il y a une notion de légitimité. Et moi, j'ai fait une démonstration, c'est une des vidéos qui est sur ma chaîne, comme quoi la désobéissance civile est légale et constitutionnelle. Et j'ai pris la définition du dictionnaire des croyances. La Constitution respecte toutes les croyances. Donc, après, je vais voir dans le dictionnaire. Une croyance, c'est quoi? C'est le fait de croire en quelqu'un ou quelque chose. Donc, si moi, je crois que ce système me pousse à faire le mal, à détruire le vivant, à me mettre en danger, à mettre des autres gens en danger, que mon gouvernement ne me respecte pas, etc., etc., c'est une croyance. C'est plein de croyances. Et la Constitution, de fait, respecte toutes les croyances. Donc, ça tombe bien. Après, j'ai regardé la définition de légitimité. C'est ce qui... Alors, je me souviens plus exactement comment c'est formulé, mais... ce qui a force de droit, quelque chose de cet ordre-là. Et ça veut dire qu'au-dessus des lois et des constitutions d'un pays, bon, nous, en Union européenne, on a la constitution européenne qui chapeaute, mais au-dessus, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme et les lois universelles. Donc là, j'invite chacun des auditeurs à aller se renseigner sur ce que sont les lois universelles. Il y a une vidéo où je propose un lien d'une autre vidéo qui explique, en fait, souvent on parle de la loi d'attraction. C'est mis en avant avec ce fameux film Le Secret. Mais c'est une des 12 lois universelles. Mais sans les 11 autres, elle ne vaut rien. Et c'est aussi Hermès Trismégiste qui avait parlé des lois hermétiques. Hermétiques d'Hermès Trismégiste. Et ça reprend les lois universelles. Donc ça, c'est vraiment fondamental à prendre en considération. Ces fameuses lois universelles chapeautent toutes les constitutions, etc. Donc, en fait, on est dans la légitimité quand on est en accord avec ces lois universelles. Mais ça veut dire aussi qu'on n'a pas le droit de tuer, de voler, de mentir. C'est des espèces de principes. Alors, ça peut faire un peu religieux, mais la religion n'a fait que reprendre des principes qui existaient déjà avant. Et ça veut dire qu'on ne fait pas n'importe quoi. Mais si je suis dans le respect du vivant, comme on dit, donc tous les êtres vivants, je suis dans la légitimité. Et donc, la définition mentionne aussi synonyme l'égalité. Donc si je suis dans la légitimité, de fait je suis dans la légalité, donc si je dois désobéir, mais je désobéis, qui décide que je suis en train de désobéir? C'est certains qui ont édicté ces lois, qui sont des lois injustes, faites par des gens qui sont élus de façon très peu démocratique, qui ne respectent pas nos intérêts, qui sont interprétables par des juges, et qui eux-mêmes ne les respectent pas. Et moi, on me demande de les respecter. Donc non, voilà. Et donc, de fait, si je désobéis, si eux estiment que je désobéis, ben en fait, je suis dans la légitimité.
Donc en fait, tu essaies à travers ta conférence aussi de montrer, ou plutôt à travers ton mode de vie, de montrer l'exemple de ce que tu vas partager dans ta conférence ou sur ta chaîne, les petits passages.
Oui, c'est ça. Donc en fait, la conférence reprend les notions que j'égrène, avec mes petites graines sur les petits passages. Qui sont la même chose que j'ai mentionné, hein, c'est-à-dire le chemin pour arriver à une vie. Imagine-toi, tu me dis par exemple, ouais, voilà, moi je suis en train de travailler, je suis trader, je suis à deux doigts du burn-out, et puis voilà, j'ai envie de tout plaquer. Bah, comment entre ta vie actuelle et ta vie idéale, on va dire, comment tu peux y parvenir? Ça veut dire quels sont les changements que tu vas devoir faire dans ta vie, les hiérarchiser, regarder le degré de faisabilité, les contraintes et les conséquences, les peurs qui t'empêcheraient de le faire. Et j'ai appelé ça les petits passages, en fait, parce que il y a dans un concept, je ne sais plus qui a inventé cette notion, mais les plus petits pas possibles. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette notion. C'est-à-dire, par exemple, tu vas avoir une conférence et l'idée, c'est que déjà dans ta voiture, quand tu rentres chez toi ou sur ton vélo ou à pied, tu vas pouvoir initier des changements. Le tout petit changement que tu vas pouvoir changer, le plus petit pas possible.
Donc, ta chaîne YouTube s'appelle Les Petits Passages en quatre mots. Jag, merci à toi pour le partage de ton parcours, donc de la vie professionnelle à la résilience.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.